Bonjour Magali Lafourcade.
Bonjour, merci.
Alors, cet AG se tient en effet à un moment très particulier. Jean-Baptiste l'a dit. L'action humanitaire en particulier, mais la solidarité internationale en général sont particulièrement touchées par le duo et puis par les décisions prises de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas seulement. C'est vrai que la quasi-dissolution de USAID, l'agence de coopération américaine, a provoqué l'arrêt brutal de 92% des projets qu'elle soutenait. Cette décision, elle s'inscrit dans une remise en question profonde de l'aide publique au développement. L'Europe suit quand elle n'a pas devancé déjà cette tendance au repli. Je rappelle que la France avait déjà annoncé dès 2024 une réduction de 35% de son budget d'aide pour cette année. Et différents États européens ont suivi, hein, de la Suisse aux Pays-Bas, en passant par le Royaume-Uni, la Belgique, qui se sont engagés dans de semblables réductions, souvent pour soutenir leur réarmement. Notre grand souci actuellement, c'est ce que les ONG vivent. D'abord, c'est un bouleversement complet de l'architecture de l'aide sur laquelle elles s'appuyaient depuis des décennies. Un effet papillon qui se fait ressentir, hein, qui de décisions abruptes prises à Washington et ailleurs produit ses conséquences partout dans le monde, qui jette des structures d'aide au bord du décrochage, qui les incite déjà à des mesures de chômage et à des fermetures de programmes. Et au bout de cette chaîne, évidemment, surtout, ce sont les populations les plus vulnérables, sur la planète qui sont déjà impactées dans leur accès aux soins, à la nourriture, et parfois même à leur survie. Alors il nous faut faire front commun, trouver les moyens de réagir à ce qui s'apparente à une offensive globale contre la solidarité internationale. C'est tout le sens de votre présence aujourd'hui, Magali. La CNCDH, c'est une belle institution, une institution de la République, comme on dit, créée il y a près de 80 ans par un grand juriste, René Cassin. C'est une institution collégiale qui assure en toute indépendance un rôle de conseil et de proposition auprès du gouvernement et du Parlement dans le domaine des droits de l'homme, mais pas seulement, aussi du droit international humanitaire et de l'action humanitaire. Elle compte des représentants d'organisations non gouvernementales et des personnes dites qualifiées, donc certaines qui font partie de la revue, de notre écosystème, on les connaît bien. Annelise Virville est là. Je pense aussi à Pierre Micheletti, qui est membre de la CNCDH. Voilà, je ne vais pas m'amuser à tous les citer. Mais on est en terrain de connaissance et en même temps, on ne connaît peut-être pas si bien que ça la CNCDH. Donc, ce sera peut-être, chemin faisant, l'occasion pour vous de nous en dire un petit peu plus. Voilà, 30 minutes de discussion ensemble, Magali, et puis on ouvrira le dialogue avec les personnes qui nous écoutent et que l'on remercie déjà de leur présence. Donc on aura trois temps de discussion, en gros un diagnostic, réaction et perspective. Et ben on va commencer tout de suite par le diagnostic. Je le disais, nous on fait le diagnostic d'une offensive anti-solidarité internationale, parce que c'est vrai que si l'on se focalise et a raison sur les enjeux de financement, on observe qu'ils accompagnent une montée en puissance d'un discours de dénigrement des acteurs. Pas seulement de l'humanitaire, mais aussi des droits de l'homme, de l'environnement, même des syndicalistes, une remise en cause de l'état de droit et des contre-pouvoirs. Est-ce que vous aussi, en tant que secrétaire général de la CNCDH, mais au sein de la CNCDH en général, vous interprétez ce mouvement de cette manière également?
Oui, tout à fait. En fait, donc déjà, je voudrais vous remercier pour votre invitation et saluer tous les membres de la CNCDH que j'ai pu voir. Il y a Christian Laval, il y a Marie-Molle Gazid, Annelise Yerville, bien sûr. Mais donc voilà, je voulais les saluer et vous dire effectivement que le but aujourd'hui, moi, je viens plutôt des droits de l'homme. Hein, donc le but, c'est même si la CNCDH, elle a ses deux dimensions, Commission nationale de mise en œuvre du DIH et Institution nationale de Commission nationale de mise en œuvre du DIH et Institution nationale des droits de l'homme au sens des Nations unies, c'est-à-dire qu'on a aussi une mission de contrôle du respect par la France de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Je voudrais vous montrer à quel point on partage les mêmes préoccupations et prendre notre diagnostic à nous. Droit de l'hommiste, hein, j'utilise ce mot qui est une invective en France, mais je l'utilise à dessein, parce que défenseur des droits de l'homme, c'est un peu long. Mais ce que je pense, c'est que c'est pas seulement les acteurs, c'est qu'il y a aussi un changement de paradigme qui est en cours. Déjà, donc, sur votre domaine, autour des questions humanitaires, on voit bien que de l'époque Truman, où l'idée c'était réduire les inégalités pour pouvoir asseoir la paix, on voit qu'aujourd'hui, on a complètement changé de narratif avec l'idée que bah, ça fait du bien aux entreprises qui bénéficient, en fait, dans les pays concernés. Donc, c'est une approche pro-business, et puis après, ça a été une approche de lutte contre l'immigration illégale, et ensuite, maintenant même, un moyen de pression pour des politiques de sécurité, voire de réadmission des personnes sans papier. Donc on voit bien comment le narratif évolue et aujourd'hui, il y a l'espace de la critique n'est donné qu'à l'extrême droite. Il faut investir ce champ-là pour expliquer l'importance à la source de l'aide publique au développement. Qu'est-ce qu'on y met? Puisque comme vous l'avez dit, ça n'est pas que USAID, c'est aussi les Européens qui avaient ouvert le bal. Et donc, cette remise en cause, on voit bien aussi les justificatifs de l'AFD qui sont parfois un peu surprenants. Donc, il faut investir ce champ de l'analyse des raisons profondes de pourquoi on fait de la solidarité internationale. Et alors ensuite, sur le champ des droits de l'homme, donc nous, on a vraiment le sentiment que la tendance est à l'illibéralisme. Alors si on prend juste pour brosser à gros traits les caractéristiques des démocraties libérales, c'est d'abord porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Je veux dire, là, en France, on est en plein dedans. Je pense que on voit bien les attaques qui sont faites au judiciaire. Donc, bien sûr, je sais que les humanitaires risquent leur peau hein, quand ils vont sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a aussi des environnementalistes qui sont assassinés dans le monde. Parmi les défenseurs des droits humains, les défenseurs de l'environnement sont ceux qui sont le plus dénigrés, menacés, assassinés. Et on voit aussi donc des attaques en règle contre les juges. Bénédicte de Pertuis, qui a rendu la décision lundi sur Marine Le Pen, elle a été menacée de mort par des gens qui sont très très crédibles, hein, parce qu'on côtoie une criminalité quand même très organisée, et elle est sous protection policière comme de 150 autres magistrats aujourd'hui. Donc c'est une évolution qui est quand même très inquiétante. Donc les attaques aussi évidemment vis-à-vis de l'indépendance de la justice. Et puis il y a tout ce qui concerne la presse, qui est un quatrième pouvoir, hein, qui peut être extrêmement efficace pour pouvoir contrer un certain nombre de difficultés. Et là, on voit aussi que dans le monde de la presse, il y a eu des effets d'organisation. Et donc, je crois qu'il faut casser un peu les silos pour voir comment on peut travailler ensemble. Et vous vous souvenez de cette journaliste maltaise qui a été assassinée. Et derrière, il y a eu une organisation en Europe pour pouvoir sortir les Panama Papers et pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'effet Streisand. On y reviendra peut-être plus tard. Mais donc, la liberté de la presse, la concentration des médias, c'est un sujet. Il y a des discussions, j'ai eu des discussions avec Mediapart, notamment sur comment ils organisent le Fonds pour une presse libre et comment ils veulent se sécuriser en cas d'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc, il y a déjà ces pensées-là. Donc, c'est pour vous dire, tout le monde, dans son domaine, réfléchit à ces aspects-là. Et puis, il y a le shrinking space, donc l'espace dévolu à la société civile, qui est un vrai enjeu. Donc, je vous ai parlé des défenseurs de l'environnement. Mais il faut savoir que, par exemple, en France, on utilise des techniques de l'antiterrorisme pour aller au petit matin taper, comme on dit, c'est-à-dire procéder aux interpellations de militants pacifistes qui ont vraiment commis des dégradations, par exemple chez un cimentier bien connu. Donc, on voit la rhétorique de dénigrement autour des éco-terroristes, des Khmers verts, des totalitaristes écolos, qui en fait a des prolongements dans l'action publique avec l'usage des méthodes de l'antiterrorisme.
Merci. Ben, effectivement, et c'est pas nouveau, hein, ces atteintes aux libertés, alors les libertés publiques, les libertés professionnelles, des sites professionnels que vous citiez, par exemple, hein, les journalistes, les professionnels de l'humanitaire. Je cite en passant le projet Protect Humanitarians de notre ami Olivier Van de Castel contre les atteintes contre les personnels humanitaires. On avait, nous, la revue Alternative Humanitaire consacrée sous la codirection de Philippe Riffman, un numéro déjà en 2022 sur les atteintes aux libertés associatives. Donc on voit bien que c'est quelque chose effectivement qui monte. Pour revenir à la question du diagnostic et finalement de ce qui est plus la fin d'un processus, enfin la fin, j'espère que ce n'est pas la fin, mais d'un processus, à savoir la décision américaine sur USN, mais comme on l'a dit, qui a été déjà presque précédée par des mesures en France, en Europe. Est-ce que la CNCDH, puisque je rappelais que vous avez un rôle de conseil, de recommandation auprès du gouvernement, est-ce que la CNCDH s'est saisie de ce dossier, s'est adressée au gouvernement, hein, je crois que vous êtes rattaché au Premier ministre, est-ce que vous avez fait des recommandations en ce sens? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait au niveau de la CNCDH?
Ça fait partie des sujets qui sont discutés dans une sous-commission qui, parmi ses membres, va interpeller la CNCDH sur des déclarations, des avis à prendre. Et là, donc, vous trouvez sur ce lien l'interpellation qu'a faite la commission, notamment, alors, c'est vrai qu'il y a un focus sur les financements, mais aussi sur l'aide publique au développement, notamment. Donc, je vous invite à le parcourir, à le lire, à le diffuser. C'est souvent une première étape, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi un suivi au sein de la CNCDH, tout au long de ces sous-commissions qui peuvent en discuter. C'est-à-dire que l'actualité peut nous amener à prendre des déclarations, mais aller plus loin, c'est aussi rendre un avis. Puisque là, l'avis, comme vous le disiez tout à l'heure, est rendu au Premier ministre, mais va être partagé à l'ensemble des ministères. C'est aussi parfois une occasion de se saisir et de demander à certaines personnes du Quai d'Orsay de venir s'expliquer sur des coupes budgétaires aussi. Donc,
D'accord.
il y a ce dialogue qui se fait.
Merci beaucoup, Caroline. Ça, c'est très précieux ce que vous nous dites. J'aimerais bien savoir si d'ailleurs il y a eu des initiatives parallèles du secteur humanitaire via Coordination Sud. Je ne sais pas si Jérôme Fauré est dans les parages, mais ce serait intéressant de savoir si. On en parlera d'ailleurs avec Magali si on arrive à la retrouver, mais effectivement de voir de quelle manière le secteur peut, qui très souvent travaille en silo, hein, les humanitaires d'un côté, les environnementalistes, les droits de l'hommiste, j'aime pas beaucoup cette formule, mais je la reprends puisque Magali l'utilisait, on travaille tous en silo, est-ce que il y a les uns et les autres, en tout cas, si vous ne prenez pas la parole tout de suite, essayez de penser à cette question-là, faire remonter des informations qui, avec l'initiative de la CNCDH, pourraient. Voilà. La Francis, tu nous disais, est-ce que demander quels arguments de l'AFD lui paraît étrange, quels arguments lui paraissent étranges pour réduire l'aide? C'est ça que tu voulais dire, Francis?
On a dit l'aide de l'AFD a été réduite sur des argumentations qui sont un peu étranges, elle a dit, je crois, ou incertaines. C'est intéressant de savoir ce qu'elle trouve
Étrange.
dans leur.
Non,
c'était pas étrange. C'était
Magali.
qu'il y a eu. Ouais. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que donc il y avait dans les explications qui sont apportées, l'idée que ben, l'aide au développement apportée par l'AFD était bénéficié aux entreprises françaises. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on motive le paradigme de l'aide au développement autour d'une approche pro-business qui peut s'entendre. C'est juste que d'autres utilisent souvent l'extrême droite, l'idée que c'est plutôt pour pouvoir obtenir la réadmission ou limiter l'immigration. Donc, en fait, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une réflexion qui vienne de vous, des humanitaires, sur quelles sont les raisons profondes d'efficacité de l'aide humanitaire pour pas laisser ce champ-là seulement à ceux qui attaquent. Vous avez bien vu Sarah Knafo qui a fait une campagne extrêmement offensive, très mensongère, autour des fonds alloués par l'AFD, qui sont des prêts, en fait, hein, à la Chine, etc. Et donc, laisser ce champ que à ces personnes-là qui sont très malhonnêtes et dangereux. Je pense qu'il faut revenir aux raisons d'efficacité, pourquoi on fait de la solidarité internationale, quels sont éventuellement les bénéfices secondaires, mais pas avoir seulement une approche pro-business.
Merci Magali. Alors justement, il y avait une remarque intéressante qui allait dans le sens de la question que je vous posais avant qu'on soit interrompu. Question de Pierre-Alexandre d'ACF. La CNCDH serait en cours de rédaction d'un avis sur la restriction de l'espace civique. Est-ce que c'est l'espace civique, j'imagine, français? Est-ce que c'est le cas?
Oui, en fait, donc nous, on travaille sur la France, hein, c'est vraiment notre objet. On est l'institution nationale française, mais on a un lien très étroit avec le ministre des Affaires étrangères et on l'interpelle aussi dans sa diplomatie. Donc, on le fait dans sa diplomatie vis-à-vis de l'humanitaire, vis-à-vis de la Cour pénale internationale, vis-à-vis de tout un tas de champs, mais aussi dans son approche au sein de l'Union européenne, puisque donc la France a une diplomatie très très forte. Au sein de l'UE, et donc on travaille beaucoup notamment sur la responsabilité sociétale des entreprises, la directive Omnibus qui nous inquiète beaucoup. On a ce mandat-là parce que on a donc tout le champ des droits de l'homme, mais on a des mandats thématiques comme entreprises et droits de l'homme, les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, qui évidemment touchent aussi un certain nombre de sujets qui concernent les humanitaires qui sont sur le terrain, ceux qui font du développement et bien sûr les environnementalistes.
D'accord.
Mais sur l'approche en silo que vous disiez, Boris, nous, les droits de l'hommiste, on s'est quand même énormément rapprochés des environnementalistes. C'est-à-dire qu'avant, on était quand même deux mondes assez éloignés. Sûrement, les environnementalistes nous voyaient comme très centrés sur la petite personne de l'être humain, sans voir l'écosystème autour. Et ils avaient un langage qui n'était pas tout à fait le nôtre, puisqu'ils avaient souvent un langage autour de l'acidité des océans, la température, etc. Depuis que le Conseil des droits de l'homme, puis ensuite l'Assemblée générale des Nations unies, ont fait du droit à un environnement sain un droit de l'homme au sens avec toutes les caractéristiques des droits de l'homme, ces deux mondes se sont vraiment rapprochés. Le rapprochement avait eu lieu avant, mais ça s'est vraiment concrétisé. Ce qui fait que c'est un double effet. D'abord, on parle maintenant un langage commun d'approche par les droits. Quand les environnementalistes défendent une forêt, ils défendent aussi la population qui est autour. On a compris qu'on ne pouvait pas être en bonne santé, nous humains, sur une planète malade. Et on a du coup une relecture du corpus des droits de l'homme sous un angle beaucoup plus collectif, beaucoup plus citoyen, qui est plus proche finalement de la lecture française de l'époque des droits de l'homme et du citoyen, donc l'être humain dans la cité, que de l'approche anglo-saxonne autour des droits individuels et des droits par des groupes. Et donc, cette lecture plus collective emprunte aussi à des notions qui sont à la fois anciennes et issues d'autres traditions, autour du public trust, autour des biens communs, du patrimoine commun. Et donc, on commence à se retrouver avec une base langagière assez commune. Donc déjà, quand des groupes parlent la même langue, c'est bien. Et puis, ça va au-delà. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à avoir aussi les mêmes instruments pour se protéger les uns les autres. J'étais à Genève il y a quelques semaines et j'étais à une réunion où il y avait deux rapporteurs spéciaux, le rapporteur spécial sur les défenseurs de l'environnement, donc Michel Forst, et puis la rapporteure spéciale sur l'environnement sain. Donc ce sont deux mondes qui sont assez éloignés et qui avaient des ponts entre eux qui étaient extrêmement précieux et ils voyaient toutes les actions communes pour pouvoir polliniser, c'était vraiment ce qu'ils disaient, tous les endroits et pouvoir utiliser les leviers des droits de l'homme qui sont très anciens pour protéger les droits de l'hommiste, pour pouvoir les étendre à ceux qui sont des environnementalistes. Je pense effectivement à la Convention Aarhus et au mécanisme d'urgence pour libérer les environnementalistes, par exemple.
Ok. Bon, on est en plein déjà dans le deuxième temps de la discussion. C'est bien, on a évolué naturellement. Je vois toujours. Alors, je voyais deux choses sur le fil de discussion, des choses très intéressantes, à savoir que, un, à Coordination Sud, il y a une task force sur le narratif sur l'aide publique au développement. Ça c'est Pierre-Alexandre qui est très présent sur le voilà, donc je te recite Pierre. Et puis tu nous dis, l'Élysée propose aux ONG de changer de narratif et de davantage parler de construire la paix rayonnement de la France, etc. Alors, c'est très intéressant, effectivement, changer de narratif, mais là, est-ce que, un, on va pas, est-ce qu'on n'est pas dans une, pardon, hein, mais dans une espèce de captation, ou en tout cas une prise de pouvoir, quand même, de l'État qui nous dit maintenant, voilà, dans cette situation, voilà comment il faudrait fonctionner. Est-ce que là, il n'y a pas un risque, d'une certaine manière, de voir les ONG, que les choses leur échappent?
Instrumentaliser. Ouais, moi je crois qu'il faut que la discussion elle vienne de vous. Vous la mettiez en scène. Moi je crois qu'il serait essentiel qu'on crée une initiative commune. Donc je suis désolée Boris, du coup je vais dans le troisième point
C'est très
peut-être.
bien.
Je crois qu'il faudrait que les droits de l'homme, les environnementalistes, les acteurs du développement, les acteurs urgentistes de l'humanitaire, on arrive beaucoup mieux à se parler.
Arriver au bout de la discussion, dans les bonnes conditions, mais on va pas désespérer. En tout cas, bon, bah, ça doit être la preuve que la revue Alternative Humanitaire, c'est quand même pas mal pour discuter et réfléchir, ensemble. En tout cas, on essaye de défendre cet espace. Moi, de la...
Boris,
Oui?
pourquoi pas proposer à Pierre-Alexandre de donner un éclairage?
Ben oui, effectivement. Vas-y, Pierre-Alexandre, puisque comme ça m'évitera de te citer en permanence.
Bonjour tout le monde. Je sais pas, en fait, aujourd'hui, l'espace humanitaire est souvent mis en avant parce que c'est notre cœur de métier, mais il est aussi de bon ton de rappeler que l'espace humanitaire s'inscrit dans l'espace civique. Et que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, du coup, il y a une vraie convergence. Je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs humanitaires, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, qui ont compris ça et qui commencent justement à aller vers cette convergence. Et en fait, il y a effectivement des silos qui sont petit à petit en train de sauter. Enfin on comprend la nécessité d'aller ailleurs que dans notre propre monde. Tout ce que je mettais dans le chat, bah, c'est des initiatives qui sont effectivement très branchées, pas très bon. Très marqué humanitaire avec bah, CESUD, avec Concorde, Porus, qui est la version monde, qui travaille sur ces thématiques-là. Et en même temps, au niveau très français, on a le mouvement associatif qui prend à cœur ces thématiques et qui a aussi un collège humanitaire dedans, en fait. Donc, en gros, on est en train de voir que tout ce qui se passe dans les pays dits du Nord développés, qui sont aujourd'hui, parce que l'architecture de l'aide financière est basée comme ça, les pourvoyeurs de fonds et qui peuvent donner un peu la température et la météo sur l'aide humanitaire, on voit très bien que dans ces pays-là, on voit de plus en plus des idées illibérales monter, des projets qui nous impactent fortement et qui impactent notre capacité à agir, que ce soit en France et aussi à l'étranger. Donc voilà. Donc nous, par exemple, Action contre la faim, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'on voit très bien qu'on ne pourra pas aller vers la localisation de l'aide, aller vers la décolonisation de l'aide ou toutes ces choses-là, si à un moment on n'a pas la capacité d'agir. Donc voilà. Ouais, et juste pour vraiment préciser, l'Élysée, donc c'est via la conseillère des affaires internationales de Macron qui nous dit. La paix, ça vend plus, hein. Il faut pas passer à autre chose. Donc, c'est qu'un conseil, bien sûr, mais on sent très bien que la question d'investissement solidaire est beaucoup plus présente que du don. Et en fait, l'instrumentalisation de l'APD est toujours aussi présente. Malgré les 30% de coupe de l'APD, il y a quand même toujours un huitième du. Et les chiffres sont à revoir parce que j'ai pas encore eu le temps d'analyser, mais avant ça, il y avait un huitième de l'aide qui était pour les reconduites aux frontières, les gestions administratives et tout ça. Donc, un autre huitième pour l'éducation nationale et les étudiants étrangers. Donc, en gros, ça faisait un quart de l'APD qui était pour des actions françaises. Donc, à voir si cette proportion est toujours là.
Merci.
Je relaisse la parole à Magali, pardon.
Merci, oui, Magali est revenue. Merci à toi.
Ouais, j'ai vu un message d'Anne-Lise, hein, j'ai compris comment faire en fait, avec. Merci, Anne-Lise. Voilà, c'est bon. Normalement, ça devrait fonctionner.
C'est bon, voilà. Donc, on était sur les perspectives, moi, pour accompagner un petit peu cette troisième partie, Magali. Moi, j'avais deux questions qui me venaient à l'esprit. C'est un. Est-ce que le milieu de la solidarité internationale, hein, tous ensemble, on est finalement aussi fort qu'on l'espère pour résister à ce rouleau compresseur? Ça, c'est la première chose, hein, parce que je crois qu'on s'est souvent cru beaucoup plus puissant qu'on l'était. Et ce qui s'exprime là maintenant, c'est qu'on est quand même peut-être des géants au pied d'argile. Voilà, c'est la première chose. Est-ce qu'on est assez fort? Deuxièmement, c'est comment embarquer le grand public? Parce que je crois que la solution aussi, elle est là, parce que moi, je suis assez troublé, et je suis pas le seul, par le fait que toutes ces questions, la USAID, l'APD, etc., alors nous, on est très complètement dedans, mais si on en parle avec des gens qui ne sont pas du tout dans le secteur, les gens de la rue, comme on dit de manière méprisante dans les médias, vraiment, ça n'a pas atteint ce grand public-là. Or, c'est ce grand public-là qui donne aux ONG, c'est ce grand public-là qui vote, qui a un poids politique et qui pourrait soutenir le secteur. Voilà ces deux questions que je voulais intégrer peut-être dans votre réponse, Magali, à venir.
Oui, alors, ce que je crois qu'on ne peut pas savoir si on est fort, puissant, etc. Ce sera, là, on vit un choc. On vit un choc, on a été sidéré, maintenant on digère le choc. Le choc n'est pas forcément la fin de l'histoire, puisque n'oublions pas quand même que dans moins de 2 ans, il y a des élections aux États-Unis et qu'il n'est pas exclu que Donald Trump ait tellement fait du mal à l'économie, à la société américaine, qu'il perde. Il n'est pas si large que ça quand même au Congrès. Donc voilà, ça c'est pour les États-Unis.
Coupure me permet de préciser aussi qu'il y a quand même un risque que Donald Trump puisse devenir président à vie. Enfin, j'espère pas, mais enfin déjà un petit peu plus que le mandat qui est prévu, ça serait déjà beaucoup. Mais effectivement, moi je suis si les uns et les autres dans vos différentes structures, Magali va peut-être réapparaître, mais la question du soutien. De la société civile, mais au sens là très large, hein, au sens de l'opinion publique. Est-ce que vous ressentez aussi ce décalage? C'est-à-dire que nous, on se débat face à une mesure qui nous paraît effectivement complètement incroyable, mais avec une population qui n'est pas du tout conscientisée sur cette question.
Parce que sur la question de la reconnaissance au niveau de la population, c'est assez compliqué parce que dans le mainstream actuel, il y a tellement de désinformation qui plane, en France bien sûr, et puis à l'étranger, l'influence russe et chinoise est quand même très importante sur le rejet de l'aide humanitaire coloniale, si je veux dire. Et mieux expliquer ce qu'est la communauté internationale, il y a vraiment un gros boulot à faire parce que si ce n'est qu'un précepte moral, ça suffira pas tout à fait. Donc, il faut vraiment faire un corpus général. Tout à l'heure, Malgali parlait aussi des droits de l'homme, l'environnement, etc. Je crois que c'est vraiment planète contre planète, quoi.
C'est très juste. Je t'interromps puisque Magali, elle est revenue.
Donc, moi, je crois qu'il faut déjà se poser les choses en creux. C'est-à-dire que on a une stratégie d'emmerdification, c'est la théorie de Steve Bannon, pour pouvoir faire des annonces tout le temps qui nous sidèrent les uns les autres. Il faut arrêter de réagir à tout ça pour pouvoir se concentrer sur nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que là, en fait, ça tue notre énergie et ça tue notre volonté. Il faut maintenant plutôt se recentrer sur quel est le message qu'on veut porter. Donc, je pense qu'en creux, il faut pas s'épuiser. Non plus à discuter avec les mouvements anti-droits. Parce que eux utilisent notre langue, nos valeurs, ils les retournent tous contre nous. On voit aujourd'hui comment on retourne la question de l'état de droit, la liberté d'expression, tout est à front renversé. Donc je crois qu'il faut rester dans quel est le message que nous on veut délivrer plutôt que de vouloir répondre ou discuter avec ces gens-là qui vont finalement nous tuer à petit feu et nous épuiser. Je crois qu'il y a quand même une attitude qui est ultra nécessaire, c'est l'obstination. Il faut s'entêter dans cette période. Des chocs, on en a connu d'autres, on en connaîtra encore, et pour autant, on sera d'autant plus fort qu'on se dit, bon bah voilà, on a assimilé le fait qu'il y a un choc terrible, et maintenant on s'obstine. Alors après, il faut voir quelles sont les pistes, les solutions. Je crois que déjà, ce que vous faites, Boris, aujourd'hui, et Jean-Baptiste, de vouloir créer des ponts avec ceux qui sont l'objet de la même attaque, c'est essentiel. Parce qu'on a tous des outils qui marchent plus ou moins bien. Nous, par exemple, dans les droits de l'homme, on utilise énormément le contentieux stratégique. On va devant la Cour européenne des droits de l'homme, on va devant le Conseil constitutionnel, on utilise énormément ces techniques judiciaires. C'est-à-dire que le juge, bon, je dis pas ça parce que je suis magistrate, mais le juge est quand même le contrepoids. On voit aux États-Unis à quel point le juge est mobilisé. Après, le juge se révèle aussi fragile. Ça renvoie à la question que vous disiez, est-ce qu'on est aussi solide que ça? En fait, même aux États-Unis, on ne sait pas dans quelle mesure les décisions de justice vont être respectées. Après, il y a la presse. Donc, il y a une concentration, il y a une presse qui est une presse d'opinion qui est atroce, mais il y a aussi une presse libre. Et cette presse libre, elle peut amplifier les messages et elle a tout à gagner à être une courroie de transmission de nos messages à nous. Je crois qu'il faut réfléchir au narratif, on en a parlé ensemble. Pour tous ceux qui ne sont pas sensibles à la question de l'être humain, qui en ont absolument rien à faire, qu'il y ait des gens qui meurent, etc., leur dire que ben, on a bien vu avec le Covid que en fait, on n'est pas immunisé contre les maladies qui se passent en Chine. Donc, il faut avoir une approche rationnelle, puisqu'on est tous liés. Parler aussi du coût de l'inaction, le fait de ne pas agir dans certaines situations. Pour les environnementalistes, c'est quelque chose de crucial. Ne pas agir, ça coûte une fortune. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient aussi se dire qu'elles gagneraient à avoir une stabilité économique, un état de droit qui fonctionne. Des juges ne sont pas trop attaqués parce que derrière, c'est le droit de propriété, leur réussite économique, leur prospérité qui passe par tous ces éléments de l'ordre libéral international qui prévalait depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a aussi des acteurs internationaux, des multinationales qui ne sont pas forcément nos alliés de prime abord, mais qui vont comprendre qu'elles ont intérêt à ce qu'il y ait une stabilité. Donc, je crois qu'il faut mobiliser les contre-pouvoirs et qu'on se parle de nos contre-pouvoirs préférés, de nos stratégies qui fonctionnent. Et puis, il y a l'effet Streisand. Je voulais en dire un mot, puisque c'est ce qu'a fait Case.eu. Donc, après la mort de cette journaliste maltaise, un certain nombre d'acteurs se sont dit, bon, bah, il y a des procédures bâillons, il y a des menaces sur les journalistes, etc. On va choisir certains combats, pas tous, mais sur certaines choses, on va y aller de manière très, très coordonnée pour donner une visibilité à ce qui avait voulu être silencié. Voilà. Et ça, je pense qu'on peut faire unir nos forces les uns les autres puisqu'on n'a pas les mêmes publics cibles. Et c'est là où on embarque l'opinion publique. Quand je vois les mouvements anti-droits qui se sont centrés sur les droits sexuels et reproductifs, la violence avec laquelle ils ont attaqué ça, avec la constance, la manière structurée aux États-Unis, mais aussi en France, quand on voit les attaques autour de l'enseignement sur la vie affective et sexuelle, et finalement, on a gagné la bataille. Donc ces petites minorités qui sont très structurées, très agissantes, la messe n'est pas dite, on peut tout à fait agir. Et puis, il y a quand même aussi, si on prend du recul, des facteurs, je trouve, qui nous donnent vraiment de l'espoir. C'est-à-dire que la CNCDH construit depuis 1990 un baromètre de l'état de la tolérance en France. Et je peux vous dire qu'on sait exactement ce qui permet d'augmenter la tolérance et qu'on est dans une société, quoi qu'en disent CNews, qui est de plus en plus ouverte, qui est de plus en plus fraternelle, qui est de plus en plus féministe, qui est ouverte aux minorités sexuelles et qui est de moins en moins raciste. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était la moitié des Français qui se disaient racistes antisémites et ils pensaient qu'il y avait des races humaines et qu'elles étaient hiérarchisées. Aujourd'hui, c'est 6%. Alors, c'est toujours trop. Et il y a des actes racistes. Mais la société elle-même s'ouvre. Ça, ce sont des socles, en fait. Le fait que les juges soient menacés, mais qui rendent des décisions qui déplaisent aux politiques, au point que maintenant les parlementaires veuillent revenir sur l'inéligibilité, au lieu de se dire que ce serait mieux d'avoir des élus probes. Voilà, tout ça montre que nos structures, elles fonctionnent. Donc on n'est pas aux États-Unis, on a des socles qui sont solides, et on a une société qui n'est pas archipélisée et qui ne se livre pas complètement aux passions tristes non plus.
Mais pour nourrir un petit peu, merci hein, pour cette note d'espoir, Magali. Mais je lisais et je vous invite à le lire sur le site de la revue, justement, une interview qui était faite par Francis de Jérôme Forêt de Coordination Sud, qui disait que pour la première fois, en tout cas de sa mémoire, c'était l'une des premières fois où il voyait que des associations, des ONG étaient menacées. En France, je fais le lien avec ce que confirme aussi d'une certaine manière Emanuela Croce de CARE. Emanuela, tu dis dans le fil qu'effectivement les donateurs, les donatrices sont pas conscientes de l'ampleur de ce phénomène et qu'il nous faut effectivement peut-être sortir de, c'est pas une tour d'ivoire parce qu'on est loin d'être une tour d'ivoire, mais en tout cas de notre chapelle, de nos milieux clos, pour interpeller, dire que à la population en général, hein, que les ONG, les associations, c'est le bien commun. Et effectivement, c'est comment on fait ça. Nous, on essaye de le faire effectivement sur la revue. À un moment donné, comme Margali avait disparu, je faisais de la pub pour la revue en disant que bah, peut-être que ça peut, c'est un de ces espaces safe, un de ces espaces où on peut avoir une réflexion. Je reprends en fait une formule hein, qu'utilisait Thibault Brutin, qui est le secrétaire général de Reporters sans frontières. Il parlait voilà de cette nécessité d'avoir des espaces comme ça où on puisse discuter. Le projet Protect Humanitarians, dont je parlais tout à l'heure d'Olivier Van de Castel, s'inspire d'une certaine manière de RSF qui protège les journalistes pour protéger les acteurs humanitaires. Donc voilà. Mais c'est compliqué. Christian, en plus qu'il y ait de la CNCDH, vas-y Christian. Faut que tu enlèves le. Ouais.
Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Bon, j'avais rebaissé parce que Magali reparlait, donc j'ai dit, je vais prendre mon tour plus tard. Oui, alors je suis à CNCDH, je représente Médecins du Monde et je fais partie de la sous-commission DIH. Et effectivement, bon, on travaille sur ces questions liées à la manière dont il y a une restriction sur de l'USAID. Et puis peut-être que du fait que tu as été très coupé, Magali, je pense qu'il n'a pas été assez dit qu'on travaillait sur un groupe de travail sur la restriction d'espace civique. Tu avais commencé à le dire, puis tu as été coupé. Donc on est en train de travailler aussi sur un groupe de travail sur la restriction de l'espace civique, qui est effectivement de ce que j'en comprends en tout cas, qui essaye d'avoir une perspective qui est plus transversale qu'on pouvait l'avoir. Et je pense que ça renvoie à ce que Magali a tenté de dire de façon un peu coupée. C'est qu'actuellement, en fait, qu'est-ce qui fait lien, bon, c'est un peu ça ma question, qu'est-ce qui fait lien entre le petit monde humanitaire, comme tu le dis, Boris, le monde du développement, le monde de la justice sociale, puisqu'on a parlé aussi des syndicats et des entreprises, le monde du journalisme, et donc des droits de l'homme, évidemment, et j'ajouterais le monde de la recherche, ce dont on n'a pas parlé du tout aujourd'hui et qui est absolument attaqué. Et on voit bien dans l'humanitaire aussi comment on s'est outillé ces 20, oui, 20, 30 dernières années. Dans une articulation de plus en plus étroite avec des chercheurs, justement, pour valider, objectiver et parfois légitimer nos actions. Donc, qu'est-ce qui fait comment atteint? C'est la question que je pose. Et en fait, moi, je pense qu'une des pistes, c'est que tous ces champs sont interdits d'employer un certain nombre de mots. Moi, je suis issu, par exemple, au niveau professionnel de santé mentale, je suis effaré de voir que Trump interdit le mot le mot santé mentale est interdit, il fait partie des 200 mots interdits qui ont été publiés par le New York Times il y a quelque temps. Je donne que cet exemple, mais il y a le mot diversité, il y a même le mot femme, etc., qui sont interdits. Donc, à un moment donné, je pense que sur l'opinion publique, cette question de la liberté de parole est attaquée. Et il me semble que c'est une transversalité qu'il faut travailler. Parce que elle concerne tous nos petits mondes et elle peut s'adresser à l'opinion publique de façon, je dirais, plus concrète que il faut aller aider les gens au Myanmar ou je ne sais où. Donc, alors je voulais, puisque c'est quand même à Magali que vous posez la question, moi je donne mes analyses, mais je voulais demander à Magali ce qu'elle pensait de cette question, de cette sémantique où l'interdit de dire favorise l'interdit. Ou l'empêchement à penser et donc l'empêchement à agir à terme. Donc voilà, c'est un peu ça ma question à Magali.
Merci, Christian.
Oui, merci beaucoup Christian. En fait, c'est ce que j'essayais de dire sur le retournement des mots et des valeurs. Je ne sais pas si j'étais coupée à ce moment-là, mais je trouve que c'est ça qui nous empêche de penser aujourd'hui. C'est à quel point ils utilisent notre vocabulaire pour le retourner contre nous. On voit avec la liberté d'expression en particulier. Mais sur les scientifiques, moi j'observe qu'ils s'organisent aussi. Il y
Tout à fait.
a Scientists in Rebellion qui existe depuis un moment et qui est de plus en plus visible, efficace et qui a une crédibilité énorme auprès du grand public.
Bon, bah voilà, donc ça recoupe. Juste pour cette question des scientifiques, moi je rappelle juste, et ça c'est, on est très fiers et très contents de le faire, et puis finalement c'est manifestement frappé au coin du bon sens, sur la revue, de faire dialoguer justement les chercheurs et les acteurs, et donc on est une revue, non pas scientifique, mais une revue de débat, de réflexion. Et justement, notre propos, hein, c'est de donner une parole plus libre, aux chercheurs et de leur permettre de dialoguer. On a fait un numéro, je vous invite à aller le regarder, sur les liens entre action humanitaire et recherche. Donc voilà, donc on est vraiment, voilà. Et moi je crois qu'il y avait aussi, alors je vois une Françoise dans le fil de discussion. J'aurais tendance à supposer que c'est Françoise Duroc, de MSF Suisse, mais
Boris,
pardon?
je confirme.
Donc voilà, donc Françoise Duroc de l'UREP, le centre de recherche de MSF Suisse, et qui effectivement nous dit, moi, enfin, je vous invite à lire son petit topo, effectivement, les crispations identitaires souverainistes, y a vraiment des tendances très fortes, c'est-à-dire qu'à la fois, je discutais avec Jean-François Corti, par exemple, le président de Médecins du Monde, il me disait, on n'a jamais fait une collecte aussi forte, ou en tout cas, on fait des collectes assez fortes en ce moment, ce qui montre qu'il y a quand même des donateurs qui se mobilisent derrière nos structures, et en même temps, on a des discours complètement sur les opérations de sauvetage en mer, tu disais, Françoise. Voilà, donc effectivement, et même à l'intérieur des structures, ça discute très 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 fort. Enfin, j'imagine qu'à MSF, même si vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes sur financement privé, MSF, d'une certaine manière, c'est toujours le point Godwin, hein, des discussions sur l'humanitaire, MSF, mais MSF est presque amené à reprendre des programmes d'ONG qui se ferment. Tu confirmes, Françoise?
Ben, c'est-à-dire, nous, l'enjeu, et c'est pas simple, on se demande, on a un axe pour améliorer la qualité, par exemple, des soins, c'est-à-dire finalement faire peut-être moins mieux, ou en tout cas dans des niches aussi médicales. Là, on se retrouve à discuter, est-ce qu'on doit laisser de côté, par exemple, ces programmes-là, qui sont des programmes, des fois, qui sont très onéreux, pour reprendre des approches plus globales, ce qu'on appelle des soins de santé plutôt primaires. Parce qu'effectivement, en face, ben, on a des collaborateurs qui ont perdu leur emploi. Les activités de prévention, par exemple, on se pose aussi des questions, parce que les activités de prévention, on était en général en collaboration pour les avoir. Donc effectivement, nous, ça va nous impacter plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça va être une occasion de revoir un petit peu nos axes de priorité. Et savoir si on va pas du coup laisser tomber ou en tout cas réduire un certain nombre d'activités parce qu'effectivement bah, en face on va se retrouver avec une perte de collaborateurs. Donc effectivement nous ça nous impacte là-dessus. Ça peut aussi nous impacter d'ailleurs sur d'autres choses hein, aussi sur les transports par exemple parce que des fois on est tributaire d'autres organisations pour le transport. Voilà où on en est. On a aussi nous des axes sur la santé maternelle et reproductive, sur par exemple les soins liés aux terminaisons de grossesse. Donc, comme on l'a cité, c'est quand même un petit peu compliqué en ce moment. On a aussi, puisque je voyais dans le chat un collègue qui parlait de ça, on a un débat qui n'est pas concomitant avec les décisions de Trump, mais sur les questions de localisation. C'est-à-dire, est-ce que justement on peut. Opérer autrement, réduire des coûts aussi d'ailleurs hein, par la même occasion, et puis évidemment répondre à des questions éthiques qu'on a eues depuis un petit moment déjà, qui est celle des questions des discriminations structurelles aussi. Mais pour entendre ta question, Boris, qui était est-ce que l'opinion publique nous soutient? Alors moi j'aurais tendance à dire, on en parlait un peu la dernière fois, que sans doute que oui, effectivement. C'est-à-dire que finalement la frange qui nous était déjà acquise dans l'opinion publique, puisque nous en plus on a des donateurs privés, effectivement, pour la plupart, ont tendance peut-être à plus donner justement en réponse à ce qu'ils voient un petit peu à droite à gauche. C'est malheureusement pas que outre-Atlantique, parce que dans toute l'Europe, en passant par l'Italie, l'Autriche, etc., l'Allemagne, on voit effectivement des montées d'extrême droite, donc ils ne sont pas très favorables aux questions
humaniste, etc. Voilà, donc nous, ça va nous impacter d'une autre manière, puis ça nous impacte aussi, j'ai tendance à dire bêtement, affectivement, parce qu'on a
Ouais.
des collègues qui perdent leur travail
Bien sûr.
et qui ça engendre aussi des drames à ce niveau-là, mais le premier drame, évidemment, se situe sur le terrain.
Merci Françoise. En tout cas, moi je note effectivement, et ça c'est, je pense que c'est assez rassurant pour certaines ONG de se dire que MSF, qui financièrement et presque structurellement d'une certaine manière est peut-être épargné, surveille, je veux dire, enfin aide, appuie le secteur.
Il y a une question sur le chat, Boris, sinon.
Ah, ok. Les infos mentionnées sur le baromètre de la tolérance sont très intéressantes et utiles. Ça a déconstruit les objectifs des narratifs. Eh ben super. Bon, on va aller voir ce baromètre de la tolérance. Merci Marie, Joël.
Ouais, en quelques mots pour pas répéter, mais enfin, c'était surtout, je voulais te contredire, toi, quand tu penses que certains sont pas impactés, tout le monde est impacté. Françoise
J'ai pas dit
d'MSF.
pas impacté, hein, j'ai dit un peu moins, disons.
Oui, mais on est impacté, si tu veux, en France comme à l'international. Françoise parlait des vols, là, des moyens de déplacement. Par exemple, tu as 60% du financement de l'UNAS qui assure la sécurité de nos déplacements sur le terrain, et ça concerne tout le monde, qui sont plus assurés. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies tes équipes au Nigeria à pied, sur la route, etc., en multipliant les risques. À l'inverse des MSF, là, si j'ai bien compris, nous, on se questionne. Nous, on est très soins de santé primaire. Je vous donne un exemple que j'arrête pas de citer, mais on a 6 cliniques à Gaza qui réfèrent à un hôpital. L'hôpital, il a fermé. On fait quoi? On reprend l'hôpital. Alors, il a fermé pour les fonds américains. Mais je crois que la spécificité américaine, c'est le volume qu'il représentait. Mais la France, à la CNH, avait annoncé 1 milliard. Finalement, c'est 200 millions. Et je serai moins dur que vous avec le grand public parce que je pense que c'est là où les vraies ONG, on a tout notre rôle, quoi. On est aussi un espace de démocratie, d'expression. Et ce que tu citais, mon président, mais oui, les gens continuent à donner, les gens continuent à être sensibilisés. Et je pense que le grand public, il le vit aussi dans sa chair. Alors peut-être, franchement, le grand public, il s'en fout que les ONG ils aient une crise de financement. Ce qui peut les choquer, c'est qu'il y a une crise humanitaire qui n'est pas couverte. Mais les gens, ils le vivent aussi sur les assauts de quartier, quoi, les assauts qui élèvent nos gosses, les assauts qui permettent la démocratie en France. On a eu les Jeux Olympiques, il y a quoi, moins d'un an? Je crois que le budget pour les assauts sportifs, et je fais exprès de faire la comparaison, mais il a été divisé d'un tiers. C'est des boîtes, enfin, c'est des boîtes, c'est des assauts qui vivent avec 50 000 euros par an. C'est que dalle, qui est basé sur des bénévoles. Ils perdent tu vois, le squelette. Donc, bon, problème de financement américain, moi je ne crois pas du tout que dans 2 ans ou dans 4 ans, ça reviendra. Je pense que le système, il est complètement à réinventer. Mais on est sur une crise politique. Si tu veux, tu en parlais très très bien, pardon de te tutoyer. Vous en parliez très bien, Magali. Il y a un problème de valeur. Nous, on n'a jamais été autant attaqué, par exemple. Alors, on travaille avec les travailleurs du sexe, avec les migrants. On a aussi nos sujets qui font que. Il y a une libération de la violence envers Médecins du Monde, par exemple, qui n'existait pas avant. Donc, je pense qu'on est sur une crise bien plus profonde que les financements. Et pour les humanitaires, que nous sommes aussi, je crois que tout le système, il est par terre, là. L'OMS s'en remettra pas forcément, l'Organisation mondiale de la santé. Bon, vous voyez ce qui se passe avec les Nations unies. Mais on s'y est mis un peu tout seul en laissant les Américains financer 40% de l'aide humanitaire. J'aurais tendance à dire que les Américains font un peu ce qu'ils veulent de leur pognon, quoi. Et qu'il faut peut-être aussi déjà balayer chez nous. Hein. Vous vous rendez compte que là, le CDCS, la plupart d'entre vous connaissent, mais peut-être pas tout le monde, on va dire qu'est la branche humanitaire du ministère des Affaires étrangères français, ils espèrent avoir un budget annuel de 200 millions. La moitié des ONG qui sont ici la pèsent plus de 200 millions. Pour vous donner un peu l'inexistence de la réponse humanitaire française à venir. Et pour le coup, le seul qui ne fait pas des coupes pour l'instant, ou la seule, c'est l'Europe au niveau central. Mais si l'Europe lâche aussi l'affaire, bah,
Ça a l'air
j'espère qu'on va
compliqué.
avoir beaucoup de donateurs généreux qui vont nous suivre. Mais j'allais dire, c'est passionnant. En tout cas, je pense qu'on y passe tous beaucoup de temps en ce moment, mais c'est tout un système à réinventer sur la solidarité internationale, mais aussi sur la solidarité nationale. Moi, je suis plus inquiet de ce qui va se passer en France dans 2 ans que les élections à mi-parcours chez les Américains. Voilà, c'était
Okay.
pour compléter.
Je voudrais dire, c'est que je rejoins tout à fait le propos de Joël. Il me semble que c'est un choc qui est très profond. On est face à une crise politique et que face à ça, on est dans un grand mouvement populiste, souverainiste, avec des populismes, hein, parce que le populisme n'est pas une idéologie, c'est un vecteur, mais on est dans un mouvement d'illibéralisme. Face à ça, il y a des aspects très puissants dans notre société, où on n'est pas comme dans les années 30, on est instruit de l'histoire et surtout on a un État qui a une autre sociologie, on a des Français qui sont très engagés dans le tissu associatif, on a une ouverture et on sait comment faire progresser cette ouverture puisqu'on a les clés pour ça. Le baromètre de la CNCDH le montre avec des études très robustes qui datent de 1990 qui permettent de voir les évolutions. Donc moi, je suis assez convaincue que nous avons les moyens de pouvoir arriver à embarquer l'opinion publique. Et il faut ne pas faire l'économie de faire un travail de pensée, de réflexion. Et je crois qu'un des moyens pour pouvoir le faire, c'est de réfléchir à ces questions de mots qu'a soulevé Christian Laval, de liberté d'expression, de narratif. Et la CNCDH peut être le lieu de toute cette réflexion autour des convergences qu'on peut faire entre nous. Nous allons organiser le 4 novembre, qui est le jour anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, des assises, hein, des droits de l'homme, où on va aussi parler des enjeux d'état de droit, des enjeux de minorité. Et c'est l'occasion aussi, et Anne-Lise est co-rapporteure sur ce travail-là, c'est l'occasion peut-être de réfléchir ensemble aux convergences et à la façon de porter notre narratif. Quelque chose qui fonctionne très très bien quand on veut faire bouger les autorités françaises, c'est de faire des stratégies internes-externes en mobilisant les acteurs des Nations Unies ou du Conseil de l'Europe. Il faut qu'on partage ce genre de bonnes pratiques où on sait que nous, on obtient des résultats. Pas sur tout, pas sur le cœur du régalien, mais sur plein d'autres droits. On a obtenu des changements avec ATD Quart Monde, on a mené des batailles et on a obtenu des changements avec le secteur du handicap aussi. Donc, tous ces succès-là, ça donne des prises pour l'espoir et je crois qu'il faut justement qu'on se raconte nos techniques, à la fois d'un point de vue narratif, intellectuel et donc créer de la pensée, mais aussi on se donne nos pistes d'espoir et nos pistes concrètes. Donc c'est casser ces silos. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à faire la même chose, bien sûr, mais trouver les points de convergence et puis mener cette réflexion par rapport à cette crise politique, parce que les gens sont toujours les mêmes. Ce sont des gens qui sont ouverts et qui sont, même si il y a un récit qui est fait dans l'espace médiatique et politique, ça ne reflète pas ce que sont les gens fondamentalement. Et quand ils sont ambivalents, on a moyen de faire émerger la part plutôt lumineuse des personnes face aux patients tristes. Ce sera un peu ma conclusion et j'y crois profondément, hein,
Formidable.
je suis convaincue. Et juste
Merci.
une illustration. Depuis 2 jours, je fais des plateaux de télé sur Marine Le Pen et j'oppose un autre narratif à celui qui est construit et ça marche, ça fonctionne.
Un très grand merci, Magali, pour ce débat aussi, j'ai envie de dire, aussi passionnant que chaotique. Mais c'est un petit peu à l'image de notre secteur, hein, donc passionnant et chaotique. Voilà, bon, bah, je vais laisser la parole pour continuer sur l'Assemblée générale, mais juste voilà, bah, en espérant et en faisant, en espérant qu'on a fait la démonstration là que la revue Alternative Humanitaire, bah, c'est justement, voilà, un espace pour qu'on puisse discuter, réfléchir, voilà, un de ces espaces qu'il faut sauvegarder. Voilà, je vous invite à aller sur le site de la revue parce qu'on a ouvert une rubrique. Alors, d'abord, il y a le dernier numéro qui vient de sortir, ça s'appelle La crise de l'humanitaire au temps du changement climatique. Autant dire les deux éléments sur lesquels on a des grandes préoccupations. Et puis, on a une rubrique spéciale Aide en danger qui revient sur cette question-là. Voilà, donc vous êtes les bienvenus et le 22 mai et sur le site et à lire la revue. Voilà, merci encore hein, Magali.
Merci beaucoup. Bonne continuation. Au
Ouais,
revoir.
merci à vous aussi. Au revoir.